Louer et exalter toi le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité, pour le grand privilège que nous avons d'écouter ta parole, de la croire, de la recevoir. Alors que justement, de tout notre cœur, nous avions chanté, j'ai essayé de me mettre à la place de ceux qui, de tout leur cœur, ne peuvent pas encore chanter. Et c'est notre prière à tous que le cantique qu'on chante en commun à la fin de la réunion, du premier jusqu'à la fin, pour l'honneur de Dieu, que tous nous puissions le chanter, chanter le cantique. Et par cela, on exprime que Dieu, dans cette réunion, cet après-midi, en chacun veut produire quelque chose et va produire quelque chose. Donc, avant la réunion, il est bien qu'on puisse chanter quand on chante, que tous en chantent. Et vous le savez, j'aimerais raconter une histoire, mais vous savez, je ne fais pas partie de ceux qui racontent des histoires. Ce n'est pas en moi de raconter des histoires, mais c'est une vraie histoire, une histoire qui en ce moment me touche beaucoup. Et je pense justement à cela. Alors que aux États-Unis, les premiers athéistes ont apparu, ça ne fait pas longtemps. Il y a eu une réunion, et dans cette réunion, l'athéiste a exposé ses raisons que pour lui, il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu. Et alors qu'il avait presque fini, il y a un homme qui a traversé la salle et en allant devant, il a retroussé ses manches. Un homme grand et fort. Il est allé devant et parce que il avait retroussé ses manches et cet athéiste-là avait vu cela, il a pensé que il doit se retirer du microphone. Il n'a rien pu faire d'autre que de laisser la place à cet homme et de lui laisser le microphone. Le micro. Et l'homme n'a pas dit un mot. Il a mis sa main dans sa vieille poche de sa veste et il a sorti une orange. Et devant tout ce public, il a commencé lentement à éplucher son orange. Mais détendu, sans dire un mot. Et alors qu'il l'avait fini d'éplucher l'orange, il a commencé à ouvrir l'orange, à prendre chaque tranche comme ça, doucement. Et tous regardaient ce qui allait arriver. Aucun homme disait un mot. Et quand il a commencé à ouvrir l'orange, il a enlevé, il a détaché chaque morceau de l'orange. Il a commencé à manger chaque morceau l'un après l'autre. Et tous ont regardé et c'était un silence total dans la salle. Et quand il avait fini de manger l'orange, il s'est tourné vers cet athéiste et lui a posé la question. Dites-moi, est-ce que l'orange là était sucré ou bien amer ou bien acide? Et il a dit, mais bien sûr, mais comment est-ce que je peux le savoir? Je ne l'ai pas mangé. Ça, tu dois le savoir, car c'est toi qui l'as mangé. Et ne me demandez pas ce que cet homme ensuite a répondu à cet athéiste. Là-bas, devant tout ce public, il lui a dit, tu as parlé d'une chose que tu n'as pas toi-même mangée. goûter. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Aujourd'hui, il y a une semaine d'ici, j'étais dans un culte. Et Dieu, par la prédication, m'a parlé à mon cœur. Et j'ai répondu à l'appel à l'autel. Et j'ai vu et j'ai goûté que Dieu est bon. Laisse-moi parler des choses concernant Dieu parce que je les ai expérimentées moi-même personnellement. Mais bien aimé, ça c'est une vraie histoire. Il y a peu d'histoires qui sont racontées, qui sont vraies. Mais laissez-moi aujourd'hui vous dire, nous ne sommes pas des hommes qui sont en train de parler de choses qu'ils n'ont pas eux-mêmes expérimentées personnellement. Mais nous sommes des gens qui ont expérimenté Dieu. Et tous ceux qui n'ont pas encore fait une expérience personnelle avec Dieu pour le connaître personnellement, devraient aujourd'hui, cet après-midi, le faire avec Dieu, une expérience personnelle. Car il est présent dans chaque culte. Laissez-moi lire une parole. D'avant la prière, une parole dans un psaume, le psaume 103, les derniers versets, à partir du verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Louez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres et obéissant à la voix de sa parole. Louez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Louez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme loue l'Éternel. Levons-nous pour prier ensemble. Père céleste, de tout mon cœur, je te remercie pour le grand privilège que nous avons de pouvoir parler avec toi, le Saint et le véritable Dieu. Nous venons sous le couvercle du sang de l'agneau. Nous avons honte de nous-mêmes, mais nous n'avons pas honte de toi. Et non plus de ton évangile glorieux. Nous te remercions pour le message de joie, l'évangile, la bonne nouvelle. Oh, cet après-midi, Seigneur, que cette réunion te soit consacrée. Produis du fruit pour l'éternité et rencontre-moi et rencontre-nous tous. Viens à notre rencontre, à ma rencontre, dans ta parole, par ta parole. Viens avec la puissance de ton esprit sur nous tous. Seigneur, que chaque autre esprit soit chassé au nom de Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu, pendant que ta parole est apportée, que le salut, la guérison et la délivrance aient lieu sous l'écoute de la prédication de l'Évangile. Que ton sang et que ton esprit agissent. Seigneur, nous nous consacrons à toi et nous croyons que le temps s'est rapproché. dans lequel c'est pas seulement des miracles de guérison, mais des miracles de création auront lieu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, fais-moi grâce et fais-nous grâce à tous. Et révèle-toi à nous à cause de ta fidélité. À toi seul appartient la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration d'éternité en éternité. Amen. Tu es digne. De recevoir honneur et gloire et adoration. Nous nous asseyons. Ce week-end, vendredi, je suis allé j'ai entrepris un vol à Londres. J'ai eu là-bas une rencontre avec le docteur professeur Lang, un homme qui a reçu le message de la tête aux pieds, qui vit dans le message et qui a qu'un seul souhait, c'est d'avoir part à ce qui doit se passer dans la langue, dans le domaine anglais, en langue anglaise. J'ai des lettres chez moi à la maison, tout un nombre de lettres. Jusqu'aux dernières, dans lesquelles il y a une lettre de l'Amérique a été adressée à un prédicateur en Inde. Et envoie-nous d'abord $163 et ensuite nous t'enverrons tout un paquet des prédications de Frère Branham. Alors que j'ai lu cette lettre, je me suis gardé cette lettre bien soigneusement et dans mon cœur, il y a quelque chose qui a pénétré profondément. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, permets que nous puissions aussi servir le monde anglais et prendre la responsabilité pour le monde anglais, pour que ce ne soit pas seulement que les hommes du premier ou du deuxième monde, mais aussi les peuples du tiers-monde reçoivent la parole de Dieu révélée et l'écoutent gratuitement. Et le frère Lang était aussi au même moment touché dans son cœur. Nous avons pris contact. Il a dit, frère Franck, comme je suis reconnaissant pour cet appel, depuis 2 ans, je me suis laissé je suis allé à la retraite avant le temps parce que je ressentais dans mon cœur que je dois avoir part à l'œuvre de Dieu. Ceci est maintenant mon devoir. Je me réjouis. Nous allons donc pouvoir servir tout en Inde et en Afrique, les pays anglais. Et cela avec les prédications de Frère Branham qui ont été tenues après l'ouverture des sceaux. Et ainsi, l'épouse va être amenée à marcher dans le même pas, au même pas. Et je peux vous dire, à Düsseldorf, nous avons eu une foire et d'imprimante. Et nous avons acheté une imprimante avec un rabat de 11 000 DM, comme elle aurait coûté originellement directement acheté de l'exposition de la foire à 38 000 D-Mark, Deutschmark. Et nous consacrons tout cela au Dieu Tout-Puissant. Le temps est court, le temps est sérieux. Ce que nous voulons faire, nous devons le faire rapidement. Alors, j'ai vendredi soir saisi cette occasion parce que je savais que deux des plus grands évangélistes en Amérique, là-bas, avaient leur conférence de la fin de l'année. Et donc, j'ai pris part là-bas au culte. Et cet homme, là-bas, qui tenait la plus grande des réunions, était l'orateur principal. Et il aura aussi, en DRD, il aura des réunions. Et il disait, vendredi soir, viens samedi après-midi à 15h et je vais prier pour tous les malades personnellement. Et ce sera un culte comme vous l'avez jamais vu et comme vous l'avez jamais vécu. Il disait, je vais par l'imposition des mains prier pour chacun individuellement. Ça, je voulais le voir. Car ça n'avait pas eu lieu jusqu'alors. Et c'est-à-dire que hier après-midi, à 15h, je suis allé là-bas pour voir comment est-ce que cela se passerait. Mais bien aimé, je ne suis pas quelqu'un qui voyage pour critiquer. J'ai assez de critiques à me faire à moi-même. Et peut-être que chacun individuellement de vous trouve aussi un peu de choses à se dire à soi-même. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu des cartes qui ont été distribuées. Je m'en suis pris une que j'ai apportée avec moi. Je me suis laissé donner une carte de prière. Elle devait être remplie avec nom et adresse. Et vous savez ce qui s'est passé? Alors, il a dit subitement, je vais rassembler toutes ces cartes après que vous les ayez remplies. Et pour chaque carte, je vais oindre chaque carte d'huile. Et il disait, Dieu a mis dans mon cœur, rassemble toutes ces cartes et ramène-les à Washington. Et là-bas, je vous invite à une rencontre spéciale avec mes compatriotes. Et nous allons prier pour ces cartes de prière, ces cartes. Mais bien aimé, c'était le moment où je me suis dit, bon, maintenant, c'est le temps pour te lever et pour sortir. Et c'est exactement aussi ce que j'ai fait ensuite. Je comprends toujours plus comment est-ce que c'est important d'écouter le message de la fin des temps et d'avoir du discernement de toutes les choses religieuses et l'action authentique et véritable du Saint-Esprit du Seigneur dans la fin des temps. Je me suis entretenu avec deux frères qui étaient venus du Ghana, que je n'avais jamais connu auparavant, jamais vu auparavant. Je me suis retiré avec eux. Ils sont aussi sortis et je ne pouvais rien faire d'autre. J'ai pleuré comme un enfant, amèrement. Nous sommes aller au restaurant qui était dans le même bâtiment, dans un coin. Et nous nous sommes les trois embrassés. Je ne pouvais rien faire d'autre. Et j'ai pleuré amèrement. J'ai dit, frère, ici, voilà ce qui se passe dans cette salle. Et alors qu'ils ont entendu que j'étais frère Franck, il y en a un qui a dit, mais écoute, je suis le premier qui a, au Ghana, reçu les prédications de frère Branham. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et nous avons commencé à parler ensemble. Vous voyez, Dieu a un chemin merveilleux qu'il a ouvert. Un homme qui me suit et j'ai dit, je suis frère Frank. Et il a écouté un peu ce que je lui disais. Et il a dit, je viens de Trondheim, de la Norvège. Et vous savez quoi? Subitement, il a entendu le mot Ewald, j'aime pas mon prénom, Ewald. J'aime toujours, je m'appelle frère Franck, c'est tout. J'aime pas mon prénom, Ewald. Et je sais pas pourquoi. Et ensuite, à sa manière norvégienne, il a dit, mais est-ce que tu es Ewald Franck? J'ai dit oui. Il a commencé à pleurer. Il m'a embrassé. Et il a dit, mais je crois le message de frère Branham. Mais bien aimé, je pourrais vous raconter beaucoup de choses. Plusieurs choses. Aussi dans de telles occasions, Dieu a des hommes qu'il atteint. Il y a un autre homme à la réception auparavant de Zinbrich. alors qu'ils entendaient mon nom. Et je lui ai dit, je dois te dire quelque chose sur Frère Branham. Je dois te dire quelque chose sur Frère Branham. Il avait les mains, les clés de la chambre entre les mains. Et il m'a dit, mais depuis que je suis croyant, j'ai entendu ce nom. Mais jamais j'ai entendu ou lu quelque chose sur lui. Je lui ai dit, donne-moi ton adresse. Tu vas recevoir assez de lire à lire sur lui. Et c'est ainsi que j'ai rencontré des personnes l'une après l'autre. Mes bien, mes frères et sœurs, partout où nous pourrions être, Dieu est avec nous. Il veut nous utiliser à atteindre les hommes et il veut nous donner d'être une bénédiction pour les autres. Combien ont lu la dernière prédication qui a été éditée et envoyée en relation avec la dernière lettre circulaire, avec la dernière lettre circulaire? Avez-vous tous lu? Pour moi, ce n'est pas seulement un privilège, mais c'est un devoir divin de présenter au peuple de Dieu et de donner au peuple de Dieu ces choses. Cela pénètre mon cœur, alors que Frère Branham, autrefois, ou bien alors tel que nous pourrions le lire maintenant, disait, alors que un soir, j'étais dans la prière devant le Seigneur, le Saint-Esprit me parla et m'a dit, prends ta plume et écris. Et quand j'ai pris ma plume, par l'Esprit de Dieu, un message pour l'Église m'a été donné. Et alors cette phrase, ici, avec cela, je vous apporte ce message. Il s'agit de la parole adressée à l'épouse. Mes bien-aimés, nous avons compris que l'épouse sort et est appelée à sortir de l'Église. Le message est adressé en général à l'Église, aux appelés à sortir. Mais à la fin de chaque message, la promesse est adressée au vainqueur. Celui qui vaincra héritera toutes ces choses. Mais auparavant, il est écrit que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et l'Esprit, depuis toujours, a parlé par la bouche de ceux qui avaient été déterminés par Dieu à adresser sa parole à son peuple. Et si aujourd'hui, en cet endroit, nous mentionnons et insistons sur le ministère de Frère Branham, ce n'est pas pour rabaisser le ministère d'autres frères, mais c'est pour montrer la place de ce ministère dans la parole de Dieu et la responsabilité qui est liée à cela. Et montrer cela aux hommes. La responsabilité qui est liée à la reconnaissance de ce ministère. Car encore, dans Amos chapitre 3, verset 7, il est écrit, Dieu ne fait rien. Si ce n'est qu'il le révèle d'abord, ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Pas aux évangélistes. Pas aux anciens. Pas aux diacres. Mais à ses serviteurs, les prophètes, il leur révèle ses secrets. Avant de faire quelque chose, il le révèle à ses serviteurs, les prophètes. Et nous croyons que Frère Branham était un homme envoyé de Dieu. Un prophète qui, au nom du Seigneur, a parlé. Oui, par lequel Dieu a parlé. Laissez-moi mentionner deux, trois choses de cette parole de Dieu qui lui a été directement accordé par l'inspiration du Saint-Esprit, qui lui a été dictée. Citation. Dans ces derniers jours, la vraie Église épouse apparaît. La descendance, la semence de Christ, va vers la pierre de fête. Et elle sera une race super race qui se rapproche de lui, qui devient semblable à lui. Nous avons repris cette expression super race de l'anglais et nous l'avons laissée ainsi. Ce qui veut dire par là une super race, c'est un sacerdoce royal, un royaume de sacrificateurs, une race élue, des fils et des filles de Dieu qui doivent être manifestés dans ces derniers jours. Et nous sommes convaincus que la vraie révélation de Jésus-Christ et la pleine révélation des mystères de Dieu, la révélation de la puissance de la résurrection va attirer à soi la révélation de la puissance de la résurrection. Et que ce ne sera pas seulement des signes, des prodiges et des miracles qui auront lieu de façon ordinaire, mais des signes et des prodiges et des miracles qui auront lieu, qui seront de sorte à caractère extraordinaire pour que l'épouse puisse se différencier de toutes les autres églises. Jusqu'à maintenant, il est toujours dit, Christ est ici et Christ est là. Et on peut, dans une foule d'à peu près 4000 personnes, crier, élever la voix et dire, la vérité vous rendra réellement libre. À quoi est-ce que cette citation qui est à 100% vraie des Écritures, si l'homme qui mentionne cette Écriture lui-même n'a pas encore connu la vérité et lui-même ne la prêche même pas? Est-ce que la citation de cette Écriture ou bien la répétition d'un verset biblique va pouvoir aider les gens? Est-ce que le verset n'a pas été, n'est-ce pas, écrit répété depuis 2000 ans et des centaines d'années et les gens sont restés tels qu'ils étaient sans expérimenter une réelle délivrance? Si nous lisons justement cette parole dans Jean 8, si vous voulez la lire, elle est d'une grande importance. Jean, ici, chapitre 8, à partir du verset 31, oui, peut-être à partir du verset 30 déjà. Comme Jésus parlait, ainsi plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est le mystère de cette écriture de la Bible. La dernière partie ne peut pas avoir lieu sans la première part. Toutes les vérités de la Bible et la révélation des mystères de Dieu sont tous détournés comme si Dieu n'avait rien fait, sont contournés et ensuite il parle de la vérité et la vérité devrait ensuite affranchir. Nous avons ici à poser la question, mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Et la réponse est, la vérité est la parole de Dieu. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Ici, le Seigneur Jésus a adressé une parole à ceux qui avaient cru, aux Juifs qui avaient cru en lui. Aujourd'hui, il adresse cette même parole-là à ceux qui ont cru en lui, donc à toi et à moi. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, c'est la première chose, avant même de pouvoir connaître la vérité, nous devons pouvoir demeurer dans sa parole. Et avant de pouvoir demeurer dans sa parole, nous devons d'abord être dans sa parole. Nous devons être venus dans sa parole. Amen. Nous ne pouvons pas être dans cette salle, rester demeurer dans cette pièce, si nous ne sommes même pas entrés dans cette pièce. Pour demeurer, il faut être entré. Nous ne pouvons pas, nous pouvons seulement que demeurer dans la parole de Dieu si par le Saint-Esprit, nous avons été, nous nous sommes laissés conduire dans toute la vérité de la parole de Dieu. Et c'est ici, c'est de ça que tout commence. Et c'est là l'insistance de cette pensée ici, pour pouvoir être affranchi. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Celui qui ne demeure pas dans sa parole n'est pas encore, il n'est même pas un véritable disciple de Jésus-Christ. Être disciple sous-entend que nous abandonnons nos propres voies, nos propres pensées, nos propres, pour pouvoir suivre l'agneau partout où il va. Des disciples. Disciples veut dire des écoliers qui s'assiedent aux pieds de leur maître pour apprendre de lui. Mais bien aimé, dans ce temps, il y a tant de prédications qui sont appelées paroles de Dieu. Et ce n'est pas parole de Dieu. C'est leurs propres opinions sur la parole de Dieu. Alors que cet homme disait, comme ça, pendant 10 minutes à peu près, je vais vous prophétiser, je vais vous apporter une prophétie. Alors là, j'ai compris, plusieurs choses ont été claires pour moi. Et il s'est dit, et il disait, je me tiens ici en tant qu'un prophète de Dieu. Oh, je pensais, mais à tel point, où est-ce que ces choses doivent encore aller? Et en juin 1958, parmi des centaines à Dallas, Texas, je l'ai vu. Mes bien-aimés, mon cœur est reconnaissant et touché en même temps. Beaucoup ont entendu le messager et ont saisi cette occasion pour, dans le royaume de Dieu, bâtir leur propre royaume. Il n'y a qu'un seul dans cette génération qui n'avait pas une grande société religieuse avec des managers et tout ça, mais qui faisait seulement ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Mais bien aimé, pour nous aujourd'hui, il s'agit de ce que nous puissions reconnaître. Et cela de tout notre cœur, reconnaître. Et dans la vérité, être de tout notre cœur des disciples, devenir des disciples de Jésus-Christ. Et il dit, alors, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et c'est ainsi que vous connaîtrez la vérité. Et c'est ainsi que la vérité vous affranchira. Elle va affranchir qui? Après la révélation des vérités de Dieu sur sa parole. Après que les saintes écritures par le Saint-Esprit nous ont été éclaircies et que la lumière a inondé notre cœur et que nous avons pu reconnaître la vérité parce que nous demeurons dans la parole de Dieu. Reconnaître la vérité et demeurer dans la parole de Dieu, c'est à ce moment-là seulement que nous sommes vraiment ses véritables disciples. Et nous passons de vérité en vérité et de clarté en clarté et de connaissance en connaissance et de révélation en révélation. Et nous reconnaissons la vérité et ainsi, elle nous affranchit de tout mensonge, tromperie, parce que nous demeurons dans la parole. Et là, il s'agit de la vérité sur la divinité, sur le baptême d'eau. Là, il s'agit de la vérité sur toutes les vérités bibliques. Et nous pourrons ici ne pourrons pas comme ça sortir une seule vérité de toutes les Écritures. Non, au contraire, nous devons laisser les choses joints et en harmonie et dans leur contexte tel que le Seigneur les a ordonnées dans sa parole. Nous devons respecter la parole, demeurer dans la parole. Ici, laissez-moi lire une parole précieuse dans l'évangile de Jean, le chapitre 16 encore. Ici, il est écrit au verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. Lorsque vient L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Jean 16, verset 25. Parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Le Seigneur a parlé en beaucoup de paraboles, par beaucoup de paraboles, car c'était écrit dans le psaume, il ouvrira sa bouche et parlera en paraboles et en images. Il leur parlera avec des images. Et c'est comme ça que le Seigneur a, n'est-ce pas, enveloppé les mystères dans les paraboles. Et durant plusieurs siècles, ils sont restés perplexes devant les paraboles. Les paraboles contiennent un mystère. Et dans Matthieu 13, notre Seigneur dit à la foule, il l'a seulement parlé en parabole, mais à ses disciples, il dit, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Aux autres, j'ai seulement parlé en parabole pour qu'avec des yeux, ils ne voient pas et avec des oreilles qui écoutent, ils n'entendent pas et que leur cœur ne croit pas et ne se convertisse pas et que leurs péchés ne soient pas pardonnés. Mais bien, mes frères et sœurs, il y a eu une époque dans le ministère de notre Seigneur où il a parlé en parabole. Mais ici, il l'annonce, l'heure vient. Il dit, je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient, il relit le verset 25 de Jean 16, où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Et c'est ainsi que durant des centaines d'années, les prédicateurs sont restés perplexes devant les paraboles, ont prêché sur les paraboles. Et maintenant, à la fin des temps, cela a plu au Seigneur de ne pas parler en parabole ou bien en image et de manière folle d'énigmes, pleine d'énigmes, mais ouvertement et librement parler avec nous. La pleine révélation de Jésus-Christ, la pleine révélation de sa parole, la pleine révélation de tous les mystères qui, avant même la fondation du monde, étaient restés cachés. Certains pourront demander, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas déjà toujours fait cela, ce qu'il fait maintenant? Pourquoi il n'a pas depuis le commencement déjà parlé ouvertement? Mais bien, frères et sœurs, si avec votre... Si vous êtes insatisfait et mécontent avec votre propre, avec ce que vous faites et avec vous-même, cela suffit. Mais ne soyez pas insatisfait et mécontent avec Dieu et avec ce qu'il fait et sa manière de faire. Qu'est-ce que notre insatisfaction et notre mécontentement et nos reproches que nous voulions faire à Dieu? Dieu fait ce qu'il veut et cela reste sa volonté juste. Et il n'a pas à nous rendre des comptes et à nous demander à l'avance. Cela lui a plu comme ça jusqu'à la fin de laisser les choses et de les mentionner en parabole et que c'est seulement à la fin des temps qu'il a décidé de les révéler. Dans Jean 16, verset 33, il est écrit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Vous aurez des tribulations dans le monde, mais... prenez courage, j'ai vaincu le monde. Que vos cœurs ne se troublent point. Alléluia. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit avant Golgotha. Il était convaincu de sa chose. Il savait qu'il allait être crucifié. Il savait qu'il allait mourir et qu'il doit mourir. Mais il savait aussi... encore plus que ça, il savait qu'il allait vaincre et ôter la victoire de la puissance de la mort et vaincre l'enfer et le troisième jour ressusciter des morts. Et c'est peut-être quelqu'un qui pouvait dire déjà ici à l'avance ça. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Que vos cœurs ne se troublent point. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il n'a pas dit, bon, regardez-vous, devez plus tard vaincre le monde. Alors préparez-vous. Non, il a dit, dans le monde, vous avez des tribulations. En allemand, vous avez des peurs, des inquiétudes. Vous avez des tribulations. Dans le monde, vous êtes en souci. Et vous passez par des tribulations et par des épreuves. Mais prenez courage au milieu des difficultés, prenez courage, pensez à cela, car moi, pas quelqu'un d'autre, moi le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, il disait aux siens, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia, loué soit notre Dieu. Et je me pose la question aujourd'hui, est-ce que Jean, alors qu'il écrivait ses épîtres, n'a-t-il pas pensé à cette déclaration du Seigneur, alors qu'il écrivait ses paroles dans 1 Jean 5, au verset 4, sous l'inspiration du Saint-Esprit? La foi est la victoire qui a triomphé du monde. Pas la foi seulement, mais votre foi est la victoire qui a triomphé du monde. Donc, ajoutons et joignons ces deux choses ensemble. D'abord, la constatation que dans le monde, vous avez des tribulations, des difficultés, des peurs, vous avez des tribulations, vous avez des épreuves, vous avez des difficultés et toutes sortes de choses qui pourraient vous arriver. Ensuite, suis cette phrase en insistant. Mais, prenez courage. En allemand, soyez consolés. Soyez consolés. Car, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Consolez-vous. Et Jean écrit, votre foi, notre foi est la victoire de Golgotha, la foi dans l'œuvre accomplie de Golgotha, qui a triomphé du monde. Et mes bien-aimés, maintenant j'ai la question à poser. Si notre foi est la victoire qui a triomphé du monde, donc c'est sûrement ainsi que nous devons dire que l'incrédulité est le contraire de ce que la foi est. Alors, on peut exactement dire aussi que l'incrédulité, le doute est votre, est ma défaite. La foi est ta victoire et ma victoire. Et je pense, et l'incrédulité est notre défaite dans les choses du monde et dans les épreuves et tout ça. Nous devons avoir un jugement correct de l'évangile de Jésus-Christ. Et notre foi ne doit pas regarder à nous et à notre état, et plutôt regarder à celui qui a souffert et a sanglanté à Golgotha et qui a dit « c'est accompli !» Donc, le sang et la vie a été donné pour nous là-bas. Ici, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, il n'y a pas longtemps, la plupart des croyants n'ont pas encore compris l'œuvre de la rédemption accomplie. Toute leur vie, ils sont occupés avec leur propre salut. Occupés à leur propre salut. Comme si par la moindre des choses, ils pourraient ajouter quelque chose à l'œuvre de la rédemption en faisant eux-mêmes quelque chose. Comme s'ils pourraient eux-mêmes ajouter quelque chose à leur salut par leurs propres efforts. Non. Comprenons cela cet après-midi. Et cela une fois pour toutes. de Dieu en Christ, avant même la fondation du monde, nous avons été élus à être des fils et des filles de Dieu, prédestinés à l'être. Et sur la croix, à Golgotha, le prix a été payé. Et ça, nous le croyons de tout notre cœur et de toute notre âme. Même si la nature divine n'est pas encore complètement manifestée et révélée dans ta vie et dans ma vie. Mais c'est ainsi que nous nous trouvons, n'est-ce pas, dans une croissance spirituelle par la grâce de notre Dieu. Et si Paul pouvait dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté, lui, un tel grand homme de Dieu, s'il pouvait dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. C'est ainsi que c'est écrit dans Philippiens 3, verset 12. Mais bien aimés, regardons pas comme ça toujours à nos manquements. Quand est-ce que nous voulons commencer à comprendre qui, en fait, nous sommes aux yeux de Dieu? Un sacerdoce royal, donc un royaume de sacrificateurs. 1 Pierre 2, verset 9. Nous pourrions pour nous considérer comme des misérables, comme des torchons. Mais Dieu nous a déterminés à être un royaume de sacrificateurs. Il nous a pas seulement déterminés. Par Jésus-Christ, comme c'est écrit dans l'Apocalypse, il nous a fait pour son Dieu un royaume de sacrificateurs, de fils et de filles de Dieu, pour qu'aucun homme ne puisse se glorifier devant lui. C'est lui qui l'a fait. Il nous a fait pour son Dieu. Un sacerdoce royal. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Laissez-moi lire encore rapidement 2-3 versets. Car la parole de Dieu est tellement merveilleuse et tellement glorieuse que on ne peut pas comme ça à la légère seulement considérer les choses et partir. Ici dans Éphésiens 3, verset 4, nous lisons « En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. » Ici, Paul a, n'est-ce pas, touché cette constatation que le mystère de Christ. Et nous avons souvent entendu, Christ est le mystère de Dieu révélé. Celui qui veut rencontrer Dieu doit le rencontrer en Jésus-Christ. Car Dieu, selon sa nature, est esprit. Et il a revêtu une forme humaine à cause de l'homme. Et cela a eu lieu en Jésus-Christ. Dieu, en Jésus-Christ, t'a rencontré en Christ Jésus. Et toi et moi, nous pouvons que le rencontrer aussi en Christ Jésus. C'est pour cette raison qu'il dit, personne ne vient au Père que par moi. Ça, nous l'avons compris. Et pour cela, nous lui en sommes très reconnaissants. Et notre Seigneur, n'est-ce pas, a dit, le temps arrive où je ne parlerai plus en parabole avec vous, où je vous parlerai ouvertement et vous dirai tout. Et ici, dans Colossiens, le chapitre 2, à partir du verset 24. Colossiens chapitre 2, verset 24. Ils ont été véritablement un dans ma chair. C'est Colossiens 1, verset 24 plutôt. Colossiens 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge de Dieu qui m'a été donnée auprès de vous afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps. Et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. À ses saints. Colossiens 1, verset 24, jusqu'à verset 26. Et que cela n'est pas une parole merveilleuse, afin d'annoncer parfaitement la parole de Dieu. Autrefois, les gens auraient pu dire, oui, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas déjà auparavant révélé ces choses? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'un Paul dise toutes ces choses? Il faut qu'un Paul dise toutes ces choses, n'est-ce pas, sont restées cachées de tout temps, dans tous les âges, mais révélées maintenant à ses saints. Dans ce contexte, cette formulation est écrite afin d'annoncer la parole de Dieu parfaitement. En allemand, pas pleinement seulement, mais parfaitement. Pas seulement une partie de la parole de Dieu. Pas seulement de prendre une partie des Écritures, mais prendre toutes les Écritures. Avec ce qui est prêché, utiliser toutes les Écritures, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et ainsi, rassembler tout et prêcher le mystère. Et ainsi, les révélations de Dieu qui se complète et pour qu'elle soit pleine et parfaite, transmettre cela au peuple de Dieu. Par tous les prophètes et les apôtres. Bien sûr qu'il y a eu beaucoup d'apôtres et d'hommes de Dieu, mais il n'y a eu qu'un seul Paul. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'hommes qui, avec un cœur sincère, et d'autres qui veulent voyager, mais Dieu nous a accordé la grâce de reconnaître de quoi il s'agit maintenant. Et remarquez-vous justement ces deux versets bibliques. D'Éphésiens 3, verset 4 et Colossiens 1, verset 24 à 26. D'Éphésiens chapitre 3 et Colossiens 1, à partir du verset 24. Si vous le permettez, et avec cela je vais terminer. Je vais vous lire encore dans Actes des Apôtres, le chapitre 3, à partir du verset 21. Et vous allez voir de quelle manière Dieu a résumé les choses. Peut-être déjà à partir du verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. De quoi il s'agit dans ce contexte des choses? Il s'agit de ce qui avait été. Il s'agit de rétablir ce qui avait été révélé de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Cela devait être rétabli et être révélé. Révélé et être rétabli. La relation avec le temps du rafraîchissement de toutes choses. Et le temps du rafraîchissement, c'est la pluie et l'avance, la pluie de l'arrière-saison. Et frère Branham pouvait dire, tel que l'enseignement devait être apporté avant la pluie de l'avant-saison. C'est ainsi que l'enseignement précède la pluie de l'arrière-saison. Et je vous dis que la parole de Dieu que nous avons semée dans la foi produira de son fruit et pas seulement 30% ou bien 60%, mais ce sera 100% de fruits. Car nous vivons dans le temps dans lequel le grain plein se rassemble dans l'épi. Nous ne sommes plus dans le stade de son développement. Nous avons atteint la fin des temps, dans le temps où le grain devient mûr et peut être récolté. D'abord, il passe, n'est-ce pas, par l'herbe, par la tige et l'épi. Cette vie se rassemble maintenant en haut, dans le temps de la récolte, dans l'épi, dans les différentes enveloppes. Qui connaît bien l'épi? Mais bien aimé, c'est quelque chose de merveilleux. L'épi, quand elle est petite, elle peut avoir 36 grains, ou bien plusieurs grains. Mais vous savez, chaque grain est dans une enveloppe. Il y a l'épi avec 36 enveloppes, mais pour qu'il n'y ait pas de frottement parmi les grains. Chaque grain est dans une enveloppe. Mais frères et sœurs, que de tout notre cœur, nous devons remercier Dieu pour tout. Il a pris soin. Dieu a une église sans frottement, sans problème, sans dispute, sans querelle. Et nous avons souvent affaire avec nous-mêmes et avec le Seigneur. Et c'est souvent l'adversaire qui nous tacle, qui nous fait trébucher et fait tomber. Nous voulons toujours faire la différence entre le précieux frère et la précieuse sœur, et entre l'adversaire qui est en train de vouloir les utiliser comme ustensiles. Alors que Pierre parlait trop vite, sans réfléchir, le Seigneur lui a dû lui dire: arrière de moi, Satan. Ce n'était pas Pierre qui lui avait dit ça. Il n'a pas dit ça à Pierre. Il n'a pas dit à Pierre: arrière de moi. Il a adressé cette parole à celui à qui on devait adresser cette parole. Et car ce qui avait été prononcé venait pas de Pierre, mais de l'adversaire. Nous voulons avoir ce discernement. Nous aimer les uns les autres dans l'amour divin. Et porter les autres dans notre cœur, dans la prière. Nous supporter les uns les autres. Et souffrir avec chacun. Porter ensemble nos fardeaux. Nous avons reçu tous la même grâce de Dieu. Et nous ressentons les douleurs de l'autre. Et vous allez remarquer que si nous sommes ainsi, de tout notre cœur, liés les uns avec les autres, et si nous prions les uns pour les autres, et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu, d'une manière puissante, va nous bénir. Et un frère, une fois, a dit: vous savez, pourquoi est-ce que je demande à tous toujours de prier pour moi? Il disait, je ne le dis pas, j'aime pas bien le dire, mais là, l'objectif est la suivante: pour qu'ils n'aient pas le temps de prier, de parler mal de moi. Pour qu'ils n'aient pas le temps de parler de moi. Je crois que c'est une chose très merveilleuse. Pour qu'ils n'aient pas le temps de me critiquer. Je leur demande toujours de prier pour moi. Et si nous sommes assez sincères, j'aimerais aussi vous dire, moi, si je suis sincère, j'aimerais aussi vous dire: priez pour moi, pensez à moi dans vos prières. Que l'œuvre de Dieu soit portée dans vos prières. Nous ne nous trouvons plus, pas seulement dans une guerre, dans une bataille. Avec Jésus-Christ, nous sommes déjà vainqueurs avec lui. Autrefois, il savait déjà qu'il avait vaincu le monde. Et regardez le peuple d'Israël. Est-ce que vous pensez qu'il regardait à ces grandes nations? La puissance de Dieu était derrière cette nation. Quoi qu'ils n'avaient pas encore reconnu le Messie. Qu'est-ce qui devrait se passer avec nous, l'Église du Nouveau Testament? Nous qui avons reconnu le Messie. Regardez Israël aujourd'hui. Ce petit pays, ils sont gardés par Dieu. Ou alors les circonstances vont nous rendre emprisonniers, ou bien alors nous contrôlons les circonstances. Nous devons respecter les décisions de Dieu. Que Dieu soit loué. Il a dit: prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Toi aussi, sois consolé et prends courage, car ton Seigneur te secourt et t'aide. S'il peut secourir Israël, qu'il n'a pas encore reconnu en tant que le Messie, après votre raison, nous qui l'avons reconnu. Loué soit son Saint-Nom. Prenez courage. Ne vous découragez pas. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Alléluia. J'ai triomphé. Et ta victoire, sa victoire est notre victoire. Loué et exalté soit le nom du Seigneur, notre Dieu. car il est digne. Amen. Levons-nous et prions avant de le faire. Nous voulons garder la tête courbée et chercher la communion avec Dieu et la trouver. Nous voulons, dans une prière commune, apporter toutes les requêtes au Seigneur comme première chose pour ceux qui aujourd'hui veulent consacrer leur vie à Dieu. Le temps va vers sa fin. La venue du Seigneur est très proche. Qui aujourd'hui, dans son cœur, a été touché et sait que le Seigneur lui a parlé, qu'il puisse, rapidement, pendant que tous les yeux sont fermés, lever les mains. Merci, 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 merci. Merci. Que Dieu vous bénisse tous. Qui aujourd'hui est venu avec des requêtes de guérison de son corps pour recevoir une guérison de son corps par Dieu? Laissez-moi voir les mains. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Qui ressent que son esprit n'est pas libre, mais sous le gouvernement d'un autre esprit, et que vous ne pouvez pas prendre les décisions comme vous voudriez les prendre. Et vous avez l'impression que il y a une autre influence qui est présente dans votre vie. Levez les mains et rebaissez-la. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. C'est difficile dans une telle question de lever les mains, je sais. Mais c'est quelque chose de très, très quotidien. Personne n'a besoin d'avoir honte de cela. Dans la Bible, il est parlé d'une femme que le Seigneur, de laquelle le Seigneur a chassé 7 démons. Et ensuite, elle a servi le Seigneur. Elle a aimé le Seigneur. Qui sommes-nous pour avoir honte? Et elle avait, et elle servait le Seigneur. Elle aimait le Seigneur. Et pourtant, elle avait encore ses démons. Si nous ne voulons pas rester tels que nous sommes, nous ne devons pas avoir honte. Mais si nous voulons rester comme nous sommes, avec des influences, des mauvais esprits, pensant que tout va bien, donc ça veut dire que donc nous pouvons avoir honte. Mais si nous voulons être délivrés, on n'a pas besoin d'avoir honte. Si nous voulons que le Seigneur nous délivre de toute influence, levez les mains. Que Dieu vous bénisse tous. Qui a encore un autre problème? Une prière de requête, une requête de prière. Vous savez que je pense, tout le monde, tous avons des requêtes. Dieu les connaît, il sait qui, n'est-ce pas, sait et il veut répondre. Nous voulons maintenant ensemble entendre ce cœur, crois seulement, et ensuite nous allons directement passer à la prière ensemble, et que chacun prie pour chacun et aussi pour lui-même. Les Saintes Écritures, le prophète Esaïe, je voudrais ouvrir le chapitre 53. Laissons-nous ensemble prier. Seigneur notre Dieu, ta parole n'est pas seulement écrite dans un livre sur des pages en papier. Ta parole est dans notre cœur. Elle est écrite, elle a été écrite dans notre cœur par le Saint-Esprit. Ô Dieu, nous n'avons pas besoin de crier comme les prêtres de Baal. Tu es celui qui garde Israël et tu es le berger d'Israël. Tu ne dors et ne sommeilles pas. Que nos prières, en raison du sang répandu, atteignent ton trône de la grâce, ô Seigneur. Sauve chaque âme, délivre chaque esprit, guéris chaque corps, Seigneur, que des miracles aient lieu, des miracles de salut, de guérison, de délivrance, oui, des miracles de création aient lieu en ton nom, par ta puissance, bien-aimé Seigneur, tel que nous n'avons pas besoin de crier à quelqu'un quand nous parlons avec la personne. C'est ainsi que nous n'avons pas aussi besoin de crier. Nous pouvons parler avec toi comme un ami parle avec son ami. Seigneur, tu as dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. Car un serviteur ne sait pas ce que faire son maître, veut faire son maître. Mais vous, vous le savez. Oh Seigneur, je te remercie et je loue ton saint nom. Tu étais plein d'amour et tu nous as parlé. Et tu as mis la décision dans chaque cœur. Et par ta foi, par ta grâce, tu as produit la foi dans les cœurs sous l'écoute de ta parole, de la prédication de ta parole. La foi en toi, en tant que notre sauveur personnel et celui qui nous guérit et qui nous sauve. Nous croyons que tu as versé ton sang, Seigneur, pour le pardon des péchés, pour beaucoup. Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes. Nous ne voulons pas d'émotion, de choses charnelles. Non, pas ta parole. Ce ne sont pas nos émotions qui doivent être atteintes, mais notre cœur, nos âmes doivent être atteintes et adressées. Oh Seigneur notre Dieu, ce n'est pas à nos émotions que tu parles. Nous te remercions, ta parole dans ces derniers jours. Tu nous as accordé la grâce de l'écouter. Tu nous as accordé ta grâce parmi toutes ces voix. Faire la différence entre ta voix. Et nous avons examiné tout avec les Écritures pour savoir si c'est exact. Loué soit ton Saint-Nom. La voix du bon berger, nous l'avons reconnue. Nous voyons les Écritures s'accomplir. Accompli devant nos yeux. Si aujourd'hui tu te tenais ici, tu mentionnerais les prophètes de l'Ancien Testament et ouvrirais les Écritures du Nouveau Testament et dirais, regardez, aujourd'hui cette Écriture est accomplie devant vous. Seigneur, je te remercie et je te loue de ce que tu as envoyé une parole à ton église, à ton épouse, et tu as envoyé dans notre temps quelqu'un pour préparer ton chemin, dans notre chemin, pour que nous puissions marcher sur tes voies à cause de ton Saint-Nom, Seigneur, que tu puisses nous faire grâce. Touche chacun, Seigneur, guéris, délivre, sauve. Et que maintenant, cet instant bien précis, quelque chose se passe par ta puissance, sous le coup de ta parole, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que tous puissent expérimenter leur guérison, leur salut, leur délivrance maintenant, puissent l'accepter, car c'est déjà accompli. Qui puisse maintenant dans la foi l'accepter et remercier Dieu pour ça. dans le saint nom de Jésus. Amen. Oh, c'est Jésus, j'ai touché le bord de son vêtement et son sang m'a purifié. Levons-nous pour la prière finale. Père céleste, de tout notre cœur, je te remercie pour le grand privilège d'avoir part à ce que tu fais maintenant. À ce que ce qui était resté caché aux enfants d'hommes dans les siècles passés, il n'avait pas été prêché. Maintenant, tu l'as révélé à ton peuple. Et tu l'as révélé par l'envoi de ton dernier ange, de ton messager adressé au dernier âge de l'Église. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur. Nous te remercions d'abord pour toi-même, pour ce que tu as fait en nous. Nous te remercions pour tous les prophètes que tu as utilisés, pour tous les apôtres, pour tous les serviteurs, jusqu'à dans nos jours. Et tu as laissé un témoignage vivant. Un témoignage vivant que tu vis et que tu es le même. Tu as révélé cela à ton peuple et tu l'as prouvé dans notre temps. Je te remercie de ce que, à la fin du temps, tu ne laisseras pas ton peuple comme ça, comme un mémorial mort, mais un endroit dans lequel toi, le Dieu vivant, tu peux te manifester. Oh Seigneur, agrée-nous et fais de nous comme tu le veux, loué et exalté, sanctifié, soit ton saint nom, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, comme au ciel, aussi sur la terre, dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen.